Radio Canu présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Mémoire intime. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Que je ne serai plus, personne ne saura qui j'ai été, car ma vie intérieure, je l'ai cachée. Je ne suis dévoilé que un peu dans mes écrits, et cela d'une façon parcimonieuse et à l'intérieur d'une jungle de personnages, sauf moi pourrais s'y reconnaître. Les années sont passées très vite, sans s'en rendre compte. Et un jour, on s'aperçoit que le temps presse, que ce qui reste à faire, dire, doit être fait, dit très vite. Ce n'est pas que je sois encore vieux, mais cela arrive à grands pas. Et puis le temps troublé où nous vivons accélère les choses. Pour une fois, je veux parler de moi-même et des gens que j'ai aimés. Bien sûr, à ma façon. Tout d'abord, Didier, Yves, Sylvain, que j'ai rencontrés à des époques différentes. Ils ont été pour moi plutôt des rêves, des êtres que j'ai plus imaginés que connus, plus aimés que désirés. Des anges qui sont passés dans ma vie et dont je suis resté fidèle, mieux qu'avec ceux dont j'ai eu une vie aventureuse. Tout a commencé lorsque j'avais 16 ans. Nous entrions en 1900. J'habitais Lyon, boulevard des Belges. Le quartier était neuf et notre maison aussi, au fond d'une cour. Maison blanche de deux étages, perron pour entrer, hall d'entrée, avec un grand escalier de pierre. Au rez-de-chaussée se trouvait la cuisine et un petit salon, Louis-Philippe. Au premier, salle à manger, salon, bureau de mon père. Et au deuxième, trois chambres, celle de mes parents, la mienne et une d'amis. À côté de la chambre de mes parents, il y avait une salle de bain et dans chaque chambre, un cabinet de toilette. Mon père, un grand homme fort, oui, un grand homme fort, la moustache est favori, noir, l'œil autoritaire, était dans le commerce, ou plutôt les affaires, import-export de vêtements et beaucoup d'autres choses. On ne le voyait que très rarement à la maison, il était souvent en voyage. Ma mère, elle ne travaillait pas. C'est une femme grande, mince, avec de beaux cheveux châtains, peignés en chignon. Elle avait un visage très doux, avec d'énormes yeux bleus. Elle était un caractère nerveux, excité. Elle arrêtait et avait la hantise de la propreté. Pour elle, être une bonne mère, c'était que tout soit propre et en ordre. Elle nous aimait par devoir, et malgré elle, elle aimait plus le devoir que nous. Mon père l'aimait, mais la trouvait pénible. Moi aussi, mais je la craignais. J'étais un enfant calme, nerveux, replié sur moi-même et surtout timide, très timide, surtout avec ceux que je connaissais. Lorsque j'étais petit, tout me faisait peur, même de dévoiler mes sentiments. J'ai vécu replié sur moi-même, à rêver une autre vie. Jusqu'à l'âge de 16 ans. Et un soir d'avril, une de mes voisines a demandé à ma mère que je sois parrain de confirmation de son fils. Elle ne trouvait personne. Ma mère allait dans ma chambre. Elle me demanda si j'étais d'accord.
C'est pas grand chose. Tu auras juste à te mettre auprès de lui.
Être parrain de quelqu'un, cette idée m'enchanta. Aider, épauler une personne qui deviendra mon ami. Je serai en quelque sorte l'ami officiel d'une personne devant Dieu et les hommes. Oui, je veux bien. La cérémonie se passerait dans l'église du quartier, un jeudi à 20h30. Comme il faisait beau et doux, nous sommes partis pour l'église à pied, mes parents et moi. Une douceur étrange régnait dans l'air, je me sentais bien. Nous sommes arrivés à l'église tout illuminée, pleine de monde. Me présenta le jeune garçon de 12 ans, à peu près, moins beau que je ne le pensais. On nous mit l'un côté de l'autre. La cérémonie se passa bien.
Thank you.
sortant de l'église, nous sommes dit au revoir. Mais quelque chose me dit que nous ne verrions jamais. Cela ne changeait pas. J'étais gonflé d'amour, l'air d'avril, le retour à pied, gens qui marchaient comme nous. Je voulais, je désirais aimer quelqu'un. Et la cérémonie m'avait envie de quelque chose de beau, de pur. Tout était merveilleux. Confus dans ma tête, et j'aimais cette confusion. Pour la première fois de ma vie, je voulais vraiment quelqu'un auprès de moi pour l'aimer. Mais je ne pensais qu'amitié. Une fois rentré chez moi, je me suis couché. Les jours suivants, je n'étais plus le même. Je passais des heures à rêver, assis sur une chaise, pensant à mon futur ami, à ma vie avec lui. À Saint-Michel, l'école où j'étais, j'observais mes camarades durant les cours pour voir lequel que pourrait l'être. Je regardais leur visage, leur corps. J'étais surtout fasciné par leur visage. Certains étaient beaux, mais aucun ne convenait vraiment. Ils avaient un caractère impossible. Je ne supportais pas leurs brusqueries. Les jeunes de mon âge le sont plus ou moins. À la récréation, je cherchais dans les petites classes. Je les trouvais moins violents, les traits du visage plus fins, mais rien. Et puis, je n'oserais pas le leur parler. Je m'enfonçais dans mes rêves où tout devenait confus pour moi. Je voulais un ami de toute mon âme. Je parlais d'habitude très peu, mais là, je parlais plus du tout. Lorsque j'étais chez moi, je m'enfermais dans une chambre, et là, je m'allongeais sur mon lit, tout habillé. La fenêtre était juste en face de moi. Je voyais les lumières du jour, une lumière lumineuse qui passait à travers les rideaux blancs. Un léger vent les faisait légèrement bouger. Je me laissais envahir, enveloppé par cette lumière blanche. Au bout d'un moment, je me sentais partir, emporté par le courant d'une rivière. Mon corps flottait au fil de l'eau, une eau légère, baignée de lumière. J'étais bien, je me laissais aller, enveloppé par la lumière. Combien de temps je restais ainsi, je ne le savais pas. Je reprenais conscience d'un coup, d'un geste brusque de la tête et des paupières. Non, je n'avais pas dormi, mais j'étais resté entre la veille et le sommeil, entre deux mondes, comme ma vie. La chambre était sombre et je reprenais petit à petit mes esprits. Un samedi matin, que je n'avais pas cours, après avoir pris mon petit déjeuner avec ma mère, qui me dit « Je vais faire une course, je ne rentrerai qu'à midi. » Je suis allé au salon du premier pour lire le journal. Que la bonne avait mis sur une table basse. J'allais m'asseoir sur une chaise. Et prenais le journal. Disait les gros titres et tournait les pages. Ce que j'aimais surtout lire, c'était les articles culturels sur le théâtre, les livres et autres manifestations. À la rubrique théâtre, je fus frappé par un portrait à l'encre de Chine d'un jeune comédien. Il devait avoir à peu près mon âge. Il avait les traits fins, un visage d'ange, avec de magnifiques yeux, un petit nez retroussé, des lèvres sensuelles, il souriait. Ce portrait me frappa tellement que j'en étais ému jusqu'aux larmes. Je le trouvais merveilleusement beau. Je n'arrêtais pas de le regarder. Son portrait, il y avait son nom, Didier H. Je lus l'article. Il faisait partie d'une troupe de comédiens parisiens qui étaient venus à Lyon représenter une pièce de Murland. Elle se passait dans un collège et c'était l'histoire d'une amitié entre deux adolescents. Le jeune Didier H en était la vedette et on le trouvait admirable. Qu'est-ce qui se passait ? Dans un collège, ça me frappait. Non seulement le jeune adolescent était comédien, en plus il jouait une pièce sur l'amitié et était beau. Beau!
J'avais une envie folle de voir cette pièce. Je regardais un long moment le portrait, puis tournais les pages. Mais je ne pouvais m'empêcher de retourner vers le portrait. Durant toute la journée, je marchais de long en large dans le salon et chaque fois que je me croisais seul ou pourvu, je retournais au journal. Ma mère, qui passait une partie de son temps à broder à côté de moi, me dit, alors que je tournais les pages du journal, « Qu'y a-t-il d'aussi intéressant de ce journal que tu te lasses pas de le lire sans arrêt ?» Je rougis et le pliai pour le poser sur la table. Dans mon lit, je n'arrivais pas à m'endormir. J'avais toujours devant moi le visage de ce Didier. Tout à coup, une idée bizarre me prit. Moi qui étais toujours contre le fétichisme, contre les représentations, qui ne comprenais pas les gens qui adoraient les êtres par l'intermédiaire d'un objet, j'avais envie de prendre le portrait de Didier pour le garder sur moi. J'avais peur que la bonne, à la première heure, ne jetât le journal. J'en aurais eu un grand chagrin. Je décidai de faire, pour la première fois, une chose en cachette de mes parents. Je sortis de mon lit en chemise de nuit. Mis mes pantoufles et quittai ma chambre. Longeais le couloir, descendais les escaliers et entrais dans le salon. Là, sans lumière, j'allais vers la table basse. Et j'ouvrais le journal. Rien. rien qu'avec la vue de la lumière, je déchirai le portrait. Et repliai le journal. Et sortis. Une fois dans ma chambre, essoufflé, le corps qui bat, j'allais à la fenêtre. Déplier la page où se trouvait le visage. Plus le portrait. Mais le visage de l'être aimé. Je ne savais pas que l'amour entre deux êtres du même sexe existait. Mais je me mis le feu aux joues, les oreilles bourdonnantes. Baisai le visage de Didier et le regardai tendrement. Ceci a été mon premier baiser d'amour. Mon premier geste d'amour. Puis, replia la feuille. Le mettre dans mon portefeuille qui se trouvait dans la poche revolver de ma veste et la veste sur une chaise. Et allait me coucher. Je m'endormis, mais avec une douleur à la poitrine. Le lendemain, je me réveillais avec une longue langueur, un goût à ne pas bouger, ne rien faire, seulement envie de passer ma journée au lit à penser à Didier. Il fallait se lever pour aller au cours. Une fois pris mon petit déjeuner, je mis ma veste. Le contact du portefeuille me fit battre le cœur.
durant toute la journée, je ne dis un mot, de penser qu'à lui. Et dès que j'ai pu, je suis enfermé dans les WC pour voir le portrait. Il était toujours là et plus beau que dans mon souvenir. Le trajet que je prenais pour aller du lycée à la maison était invariablement le même. Un jour, je m'enhardis à aller près du théâtre où se jouait la pièce. Ça n'était qu'à quelques rues plus loin. Je me dépêchais d'y aller comme un malfaiteur qui risque de se faire prendre. Arrivé au théâtre, essoufflé, je me trouvais tout bête. Il n'y avait rien à voir que sa façade et des affiches sur le côté de la porte. Je marchais ému, en ralentissant le pas, regardais les affiches. Et lisais avec émotion. J'avais honte et n'osais pas trop m'arrêter. Faisais le tour du théâtre et prenais le chemin de retour. J'arrivais chez moi, essoufflé, en sueur, avec la peur que ma mère me demandât pourquoi j'étais en retard. En entrant, j'allais lui dire bonjour au salon du premier. Elle était assise à broder, comme en son habitude. Je l'embrassais. Elle me dit simplement, « Comme tu es en sueur, monte faire ta toilette. » Et je la quittais. Je voulais absolument voir cette pièce que les critiques, les journaux trouvaient admirable. Mais comment faire? J'avais un peu d'argent, mais pas suffisamment. Et puis l'argent ou non, je ne pouvais pas sortir le soir comme ça pour aller au théâtre. Il fallait que je demandasse la permission à mon père. Je pensais à tout ça dans ma chambre en faisant les 100 pas nerveusement. Il fallait absolument que j'aie le courage de leur demander la permission pour aller au théâtre. Mais rien que le fait d'y penser, cela me mettait en nage. J'ai toujours eu peur de demander quoi que ce soit chez moi. Lorsqu'on me demandait ce que je voulais, par exemple pour Noël, je disais toujours rien. Même si je rêvais depuis des mois à posséder quelque chose que si je l'avais demandé, ça n'aurait pas gêné mes parents. Alors, moi qui n'ai jamais rien demandé jusqu'à présent, 16 ans, cela m'était dur de le faire. Après une heure de réflexion où je me disais qu'il fallait que je devais le demander, je sortis de la chambre, épuisé, énervé. Au salon, je ne savais comment me tenir. Je tournais en rond vers mon père. Je désirais, il le fallait, je dois. Je lui demandais. J'entendais le tic-tac de l'horloge. Et plus l'heure avançait, plus j'en étais incapable. Et la soirée finie, j'étais content que son supplice soit fini. Malgré que dans la nuit, je me déteste et me traiterai de lâche. Dans mon lit, avant de m'endormir, je prenais la feuille de papier où était le portrait et je passais des minutes à le regarder avant de l'embrasser et de le remettre dans le portefeuille. Je ne pouvais pas m'en passer. C'était ma façon à moi de faire l'amour pur. Aucun désir sexuel, mauvaise pensée, ne venait me troubler. Pour moi, c'était mon ami. L'ami. Soir, que je tournais autour de mon père en rabattant ce que j'avais à lui dire, je dis à haute voix, malgré moi, « Papa, j'ai quelque chose à te demander. » Mon père, qui lisait, leva la tête et me demanda, « Oui, qu'est-ce que tu veux ?» Je me dis que c'était le moment. J'aimerais aller au théâtre, voir une pièce. Et quelle pièce ? La pièce de Mirand. Oh, certainement pas.
c'est immoral. »
Et mon père reprend son journal. J'étais effondré. Tous ces jours d'angoisse, j'étais effondré. Pour poser cette question, dans l'espoir d'avoir la permission, j'étais malade, malade, malade. Et retourné dans ma chambre. Et allongé dans mon lit, je pleurais. Que faire ? Le théâtre m'est interdit car la pièce était immorale. Je ne comprenais pas pourquoi elle était immorale et voulais connaître cette œuvre où Didier jouait. Mais comment faire ? Un soir, en lisant et relisant l'article de la pièce, j'appris que le sujet avait été tiré d'un roman. Je décidai d'acheter le roman. Le peu d'argent que j'avais me suffirait pour acheter un livre. J'achetais le lendemain chez un libraire, sur le chemin du lycée, les joues en feu, l'apport qu'on me demanda aussi pourquoi je voulais un livre sûrement interdit aux adolescents. Mais non, le libraire ne faisait même pas attention à moi. Je le lui prenais. Il était le livre, un gros livre d'adulte. Mon premier livre d'adulte, je le mis dans mon cartable. Le soir, dans ma chambre, je le sortais délicatement. Je l'ouvrais. L'humais. Le fermais. L'ouvrais. Les feuilles étaient à découper, mais avant tout, pour ne pas y prier, je le couvrais la couverture avec du papier d'emballage. Et me mis au lit avec un coupe-papier. Ce que je lis me mettait le feu aux joues. C'était la vie que j'aurais aimé vivre. Je vivais l'histoire, je devenais l'un des deux personnages principaux, le plus vieux et Didier l'autre. Plus rien ne comptait pour moi que ce que je vivais dans ces pages. Jamais un livre ne m'avait fait un tel effet. Et après cette histoire, je n'étais plus le même. L'histoire de ces deux adolescents, je l'ai vécue plus intensément que tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Ma vie ne m'a jamais fait ressentir ce que j'ai ressenti dans ce livre. J'ai mis plusieurs nuits à le lire en cachette. Et une fois fini, j'étais épuisé. C'était comme si j'avais fini de vivre, vidé, envie de rien. J'ai voulu le relire, mais je ne pouvais pas. Non, plus tard. Je me suis dit qu'après cela, plus aucun livre ne me plairait. Et je suis resté de nombreuses années sans pouvoir lire.
Radio Canet vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Juniet Jean-Pierre. Mémoire intime, dont c'était la première partie. Production, mise en scène, Juniet Jean-Pierre, enregistrement, c'est